L'évangile de Jean, chapitre 6, pour notre méditation de ce dimanche. Jean, chapitre 6, versets 24 à 35. Au nom de Jésus. Quand la foule vit que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ses barques et se rendirent à Capernaum pour le chercher. Ils trouvèrent Jésus de l'autre côté du lac et lui dirent : Maître, quand est-ce que tu es arrivé ici ? Jésus leur répondit : Je vous le déclare, c'est la vérité, vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain et en avez eu suffisamment, et non pas parce que vous avez saisi le sens des miracles. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se gâte, mais pour la nourriture qui dure et produit la vie éternelle. Cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera, parce que Dieu le Père a mis sur lui la marque de son autorité. Ils lui demandèrent alors : Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres voulues par Dieu ? Jésus leur répondit : L'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ils lui dirent : Quel miracle peux-tu nous faire pour voir que nous te croyons ? Quelle œuvre vas-tu accomplir ? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme le dit l'Écriture. Il leur a donné à manger du pain venu du ciel. Jésus leur répondit : Je vous le déclare, c'est la vérité. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain que Dieu donne, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Ils lui dirent alors : Maître, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur déclara : Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Quand je lis ce texte et je le relis plusieurs fois, je peux comprendre maintenant pourquoi Jésus avait étonné les rabbins et les pharisiens quand il n'avait que 12 ans. Rappelez-vous quand il venait au temple pour faire son bar mitzvah. C'est une sorte de confirmation dans la foi juive. Et lorsqu'il échangeait autour des Saintes Écritures, Jésus a une aisance incroyable dans sa façon d'expliquer les Écritures. Vous allez peut-être me dire : Mais c'est normal, car il est Dieu. C'est vrai. Mais moi, je ne me contente pas de cette réponse simple, mais je vais au plus profond des choses et j'analyse son système de raisonnement dans ce texte. Est-ce que je peux vous dire, Jésus est en train de surfer sur des situations différentes et qui n'ont rien à voir, mais finalement il parle d'une seule chose. Il parle de trois situations qui n'ont rien à voir, mais qu'il met ensemble. Et d'ailleurs, l'évangile de Jean est le spécialiste de ce genre de choses. Jean ne respecte pas la chronologie historique, mais il sélectionne certaines choses et il le met ensemble pour créer un beau bouquet de fleurs, on va dire, pour prendre une image. Jésus parle de trois sortes de pains différents dans ce texte. Il parle de trois pains. Dans un premier temps, il fait allusion au pain lors de la multiplication des pains. En lisant ce texte, il faut avoir en tête le contexte précédent. Avant cette situation, Jésus avait effectué le miracle de la multiplication des pains. Donc ce contexte-là, on sent l'écho ici. C'est la suite. Et c'est ce que Jésus évoque quand il dit : Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous êtes rassasiés. C'est-à-dire, vous me cherchez pour votre ventre, mais pas pour moi. Hypocrite, vous êtes. On croit que cette foule qui se déplace, qui prend même les barques pour chercher Jésus, croyez-vous qu'ils aiment vraiment Jésus? Comme dit l'apôtre Paul aux Philippiens, leur ventre devienne leur Dieu. Et par la suite, il parle d'un autre pain, après avoir parlé de cela, qui n'a rien à voir avec son époque. Il parle de la manne qui a été donnée aux enfants d'Israël dans le désert. Tout à coup, il change de répertoire. Mais, regardez bien, le choix de ce pain n'est pas par hasard, mais bien choisi vu que le contexte de la multiplication du pain, mettez-vous toujours en tête cette multiplication du pain, était aussi dans un lieu désertique, dans le désert. Et Jésus, avant cette situation, a multiplié les pains dans un endroit désertique. Regardez le lien. Et la manne aussi a été donnée dans le désert, lors de l'exode du peuple de Dieu. Et enfin, le troisième pain, Jésus parle de lui-même, qu'il est le pain de vie descendu du ciel. Voilà, si on résume un peu le texte, trois sortes de pains pour faciliter la mémorisation de cette méditation. La question qui se pose, quel serait l'intérêt de Jésus de parler de ces trois mises en situation en lien avec le pain? Je pense qu'il serait nécessaire de se rappeler un peu des contextes respectifs. Pour ce qui est de la manne dans le désert, l'arrière-plan était des contestations, on vient de lire le texte tout à l'heure, les contestations incessantes du peuple qui maugraient contre Moïse. Ils ont même osé dire « on aurait pu mourir en Égypte ». Ils ont regretté même leur libération, vous imaginez? Ils oublient trop vite, ces gens-là. Ils ont oublié que la mer a été ouverte devant eux. Ils ont oublié les 10 plaies. Ils oublient très vite. Et il fut même un moment, certains individus se croyant plus prévoyants dans le peuple d'Israël ont bravé la mise en garde de l'Éternel. On ne l'a pas lu tout à l'heure, mais il y a un autre texte qui le dit. Dieu disait, ramassez ce que vous avez besoin journalièrement uniquement. Il y a certains qui croyaient être plus malins. Ils ont dit, peut-être demain il n'y en aura pas. Je vais mettre quand même un peu plus en prévision de épargner pour demain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, il y avait de la moisissure. Et l'Éternel a dit, vous ne faites pas confiance. Et là, ce peuple, à la nuque raide, comme dit les Écritures, n'en faisait qu'à sa tête. Certains ont amassé plus sans prévision pour le lendemain, au cas où. Entre parenthèses, si on regarde la situation actuelle, toutes les personnes qui ont fait des prévisions de l'avenir tombent tous dans l'eau. Et Dieu nous donne une leçon de vie. C'est bien d'avoir des prévisions, des calculs, des probabilités, tout ça, mais vous avez vu, avec toutes les catastrophes, en une seule nuit, on perd tout. Je ferme la parenthèse, juste une remarque. Mais en même temps, cette manne, rappelons-nous aussi, une partie d'elle a été conservée dans l'arche pour témoigner de la fidélité de Dieu. Quand Dieu a dit à Moïse de faire l'arche de l'Alliance, « Prends-en et mets-le dans l'arche de l'Éternel. » Pour témoigner la fidélité de l'Éternel envers ce peuple, même si ce peuple lui est infidèle. La deuxième mention sur le pain, il s'agit du reproche que Jésus avait fait à l'encontre de la foule qui cherchait Jésus partout. Et encore une fois, il parle de quelque chose de négatif. Jésus dit, « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. » Si je reformule cette phrase, elle peut aussi dire comme ceci. Vous avez vu les signes, mais vous étiez tellement rassasiés que vos yeux ne voyaient plus l'œuvre de Dieu. Voilà si je reformule cette phrase de Jésus. Vous avez vu les signes, mais vous étiez tellement rassasiés que vos yeux ne voyaient plus l'œuvre de Dieu. En quelque sorte, le reproche de Jésus est que cette foule n'a pas dépassé, et là j'utilise une expression un peu bizarre, le stade buccal. Si on prend un peu la vie de l'être humain comme une évolution, un enfant est toujours dans le stade buccal. Tout ce qu'il prend, c'est dans la bouche. Donc ce sont encore des gamins, spirituellement parlant. Un peu comme un enfant, tout pour la bouche. Ils n'ont pas su voir le signe. C'est quoi le signe? C'est comme le panneau d'indication qui montre « voici le chemin ». Mais eux, ils sont restés devant le panneau d'indication, c'est ça le problème. Il ne faut pas rester là. Le panneau ne fait que te dire « voici la route vers Bruxelles ». Tu n'arriveras jamais à Bruxelles si tu t'arrêtes là. Or, c'est la chose qu'ils ont fait. Ah, des signes, donc ils sont restés là. Et ils n'ont pas vu ce que le signe montrait. Qui? Jésus. Et c'est là le problème avec les miracles. Ils n'ont pas su voir le signe lui-même, car ils étaient tellement rassasiés. Voir encore pire, le miracle de la multiplication des pains était devenu un obstacle même pour les disciples, pour voir et connaître qui est réellement ce Jésus qui distribue du pain partout. Qui est-il? Ils n'avaient même pas eu une idée de poser, mais c'est qui est-il? Mais où est le pain? Quand on vous achetez vos pains dans une boulangerie, quand vous êtes satisfait, vous vous posez la question, mais ah, ce monsieur, cette dame fait du bon pain, qui sont-ils? Et là, on commence à se renseigner un peu sur sa famille et tout ce qu'il est. C'est pas seulement, bon, j'ai bien mangé, ça s'arrête là. Et eux, par contre, ils ont tout oublié. Ils ont vu un Jésus qui ne faisait que la mission du resto du cœur, c'est tout. Un Jésus social. Un Jésus qui fait de l'œuvre caritative, qui n'est pas mauvais en soi. Mais ce n'est pas ça la mission de Jésus. Jésus n'est pas venu sur cette terre pour créer une ISBN. Il est venu sur cette terre pour nous sauver. Et cette réflexion nous mène à la problématique suivante. Est-ce que le miracle contribue à l'implantation de la foi chez les chrétiens? Ou est-ce possible aussi qu'elle devienne un obstacle de poids pour la foi? Je me pose des questions. Est-ce que le miracle vous aide vraiment à avoir la foi? C'est mitigé comme réponse. Et comme je l'ai dit tout à l'heure pendant la liturgie, à chaque fois quand je viens rendre visite Fernand chez lui, il m'a dit toujours cette belle phrase que j'ai notée dans un petit carnet. Pour lui, les miracles, c'est un clin d'œil de Dieu, un rappel qu'il est là, c'est tout. Il dit « Et je suis là ». Parfois, on l'oublie. Donc, il envoie des signaux pour nous rappeler qu'il est là. C'est tout. Mais si nous nous misons sur ce miracle-là, alors là, notre foi serait saisonnière aussi. En tout cas, si nous tenons compte du texte précédent, ainsi que notre péricope d'aujourd'hui, cette foule qui est devant Jésus n'est autre que la foule qui a vu, qui a vécu la multiplication des pains. Et pourtant, il réclame encore et encore plus de miracles pour cautionner que Jésus est le Fils de Dieu. Et il est dit au verset 30 même, « Quel signe produis-tu donc, toi, pour que nous voyions et que nous te croyions? Quelle œuvre fais-tu ? » Vous imaginez cette question ? Ils viennent de manger. Hein. Ils en avaient même plus. Hein. Et ils disent encore, « Quel signe montres-nous-tu ? » C'est aberrant. En les écoutant, c'est comme s'ils avaient tout à coup une amnésie. Ils ont oublié. Oublions ce qui s'était passé le jour précédent, pas un mois, hein. Le jour précédent, hier. Mais ils ont tout oublié. Et là, ils osent encore dire, montre-nous un signe. Est-ce que ça ne fait pas rappeler, penser à quelqu'un ? C'est nous qui faisons ça dans nos prières. Et si nous allons jusqu'au bout de ce texte, il arrive à un moment de rupture totale entre Jésus et la foule, ainsi que certains disciples lorsqu'il avait dit « Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure uni à moi et moi à lui. » Que s'est-il passé ? Une fois qu'ils ont entendu cette parole, la grande majorité de la foule a abandonné Jésus. C'est le moment de voir qui sont les vrais disciples. Il y a juste des gens qui suivent le Christ parce qu'ils aiment Christ, qui donne des choses. Mais est-ce que vous êtes acquis à la cause du royaume des dieux, de cieux ? Là est la question. On parle maintenant des choses sérieuses, du mystère, de la foi. Et là, on dit, ça ne m'intéresse pas. Mais quand on parle de miracles, ah oui, là... Et malheureusement, il y a des chrétiens comme ça. Ah, prie pour nous, fais ceci, fais cela, ok. Ils reçoivent la réponse à leur prière, alléluia, merci Seigneur. Et quand on leur dit, écoute, est-ce que ça ne t'intéresse pas d'apprendre la Bible ? Je n'ai pas de temps. On se pose des questions parfois. Aimes-tu vraiment le Seigneur ? Ou est-ce que tu aimes ce qu'il te donne, tout simplement ? Et quand Jésus a voulu entraîner la foule dans les vrais sujets de la foi, ils se sont tous désistés. Alors, chers amis, pour clôturer cette méditation, le constat est clair. Les miracles ne produisent pas du tout la vraie foi. Il faut que ce moment, que je dirais plutôt un moment d'émerveillement quand tu vois un miracle, oui, Dieu fait des miracles, c'est sûr. Mais ce moment d'émerveillement de la foi doit continuer ou doit switcher complètement vers une foi basée uniquement que sur le Christ. Et j'avais utilisé une expression de la Bible, de l'Évangile tout à l'heure. On compare deux chrétiens, deux sortes de chrétiens, celui qui a bâti sa maison sur le sable. Donc c'est beau, c'est magnifique, c'est facile. Mais une fois que la tempête arrive... Voilà le chrétien qui a bâti sa foi sur des miracles. Ça ne tient pas dans la durée. Par contre, celui qui a décidé de bâtir sa maison sur le rocher, oui, il y a de la peine, de la sueur, des blessures même. C'est pas évident de grimper la colline, de creuser dans le rocher. Mais celui-là, quel que soit le climat, il sera toujours là. Choisis où tu vas bâtir ta vie. Sur le Christ seul ou sur les miracles. Amen.